Bonjour Jérôme, bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue, ça me fait très plaisir.
Moi aussi.
Peux-tu commencer par te présenter ?
Je m'appelle Jérôme Sabag, je suis musicien de jazz, j'ai 42 ans. Je suis né à Paris, j'ai déménagé aux États-Unis il y a 22 ans. J'ai étudié à Berklee College of Music de 1993 à 1995. En 1995, je me suis installé à New York où je vis depuis. Voilà.
Super. Donc tu viens de nous dire que tu habites New York depuis 1995. Est-ce que tu peux nous raconter le parcours qui t'a conduit à t'installer là-bas ? Pourquoi tu t'es installé là-bas ?
Au début, je voulais surtout aller voir comment ça se passait après avoir passé 2 ans d'études à Boston. Après, j'ai été séduit par la ville, j'ai été séduit par les musiciens qui y jouent. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir des projets là-bas. Et je me voyais difficilement rentrer en France. Alors après, je pensais pas forcément que j'allais vraiment passer 20 ans là-bas et vivre et vraiment m'installer, au point que maintenant j'ai la nationalité américaine. Mais oui, une chose en a amené une autre, en fait. Et ça s'est fait assez naturellement. Je pensais pas rester aussi longtemps. Mais...
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un de tes premiers souvenirs là-bas, une anecdote, et qui t'a fait peut-être rester là-bas, justement ?
Je ne sais pas si ça me fait rester, mais quelque chose de marquant, c'est la première fois où je suis allé à New York. Un de mes premiers gigs à New York, c'était dans une laverie où il y avait... je connaissais quelqu'un avec qui j'avais fait un stage avec David Whitman, un autre saxophoniste. Et il avait un gig tous les jeudis, je crois, dans une laverie, en duo avec un contrebassiste. Et il m'a demandé de le remplacer pour son gig. Et du coup, j'ai fait le gig en duo avec un guitariste que j'avais amené, Greg Tui, un pote. Et c'était notre premier gig à New York dans une laverie. Voilà. Alors, c'est pas forcément ça qui m'a fait rester, mais en termes d'anecdotes, c'est marrant.
Effectivement. qu'est-ce qui est, selon toi, spécifique aux musiciens à New York que tu trouves pas peut-être ailleurs ?
Spécifique aux musiciens à New York, peut-être un degré à la fois d'attachement à la tradition du jazz et à la fois d'engagement, quel que soit le style de musique. Qui est très élevé. Alors après, ces choses sont possibles ailleurs. Et il y a des musiciens ailleurs qu'à New York qui ont ces qualités. Mais je dirais qu'en moyenne, elles sont plus répandues à New York qu'ailleurs. Du coup, c'est à la fois beaucoup de musiciens, un grand nombre de musiciens, un degré d'engagement très élevé, un niveau, bien que j'aime pas ce mot particulièrement, mais on va quand même l'utiliser, un niveau très élevé. Beaucoup de possibilités d'écouter de la musique, plus qu'ailleurs, en tout cas dans le jazz. Du coup, cette concentration de musiciens a pour conséquence une émulation, a pour conséquence un renouvellement, a pour conséquence la possibilité d'écouter de la musique de très grande qualité tous les soirs. Donc, je pense que ça favorise chez les musiciens la possibilité de se remettre en question, peut-être la possibilité de se développer. De vouloir faire plus, de vouloir faire mieux, de vouloir avancer. Donc je pense que c'est une ville qui favorise une démarche de questionnement et une démarche de vouloir creuser les choses en musique, en tout cas dans le jazz.
Ok. Et pour revenir sur ce que tu disais sur l'attachement à la tradition et je pense certainement à la pratique des standards et de tout cet héritage, est-ce que tu aurais des exemples ou peut-être un savoir-faire ou quelque chose que tu ne trouves pas ailleurs ?
Je pense que ça s'entend dans la manière dont les gens jouent, particulièrement pour les rythmiques, à savoir bassistes et batteurs. Je pense qu'il y a une manière de jouer les standards, une espèce de terrain acquis, une espèce de matériau qui est là, d'attachement aux fondamentaux qui est là et qui permet aux gens de jouer ensemble, de communiquer ensemble à un degré élevé et à un niveau élevé. Alors, ce ne sont pas des éléments qui sont spécifiques à New York, encore une fois, mais ce sont des éléments qui sont plus répandus à New York, je pense. Et du coup, cette espèce de capacité d'arriver à faire des gigs, d'arriver à comprendre la musique, une nouvelle musique de quelqu'un avec lequel on joue, par exemple en sideman, rapidement, à pouvoir répéter de manière efficace, peut-être arriver sur un gig sans avoir répété, pouvoir en même temps savoir que les gens vont connaître tel morceau, tel morceau, tel morceau, et que la plupart des gens vont être quand même suffisamment solides pour qu'on puisse faire de la musique tout de suite. Alors après, ça marche plus ou moins bien. Je ne dis pas que ce ne sont pas non plus des conditions idéales pour faire de la musique, mais je pense que ça, voilà, ça fait partie des choses qui sont différentes à New York. Et puis, je ne sais pas exactement ça. Peut-être une exigence dans le quotidien qui est plus grande qu'ailleurs.
D'accord.
Ouais. En termes d'attachement à la tradition, je pense que même quand on fait un jazz plus moderne, peut-être, des compositions, peut-être un jazz plus libre, plus ouvert, un jazz où se mêlent d'autres influences, d'autres musiques, il y a quand même, chez la plupart des gens, une espèce de connexion avec la tradition qui fait que bon, bah, c'est un terrain sur lequel on est entraîné. Du coup, on a des réflexes, on a un attachement à la forme, on a un sens du rythme, on a un sens mélodique, on sait jouer sur une grille, ce genre de choses. Tout genre de choses qui, après, sont utiles dans n'importe quel style de jazz et n'importe quel style de musique.
Ok. Justement, tu me parlais du quotidien du musicien de jazz. Quelle est, pour toi, quelle est la journée typique de Jérôme Sabag à New York ? Qu'est-ce que c'est d'être musicien de jazz ?
Ça
varie. Tous les jours,
ça varie. Il y a 2 jours par semaine où je donne des cours. Donc ces jours-là, bah, la plupart, la majeure partie de la journée est dédiée à donner des cours. Donc je vais dans des écoles donner des cours à des enfants. Je fais ça 2 fois par semaine. Par ailleurs, j'ai fondé une société qui a un contrat avec la ville de New York. Du coup, j'ai des gens qui travaillent pour moi pour faire ça. Bon, donc les jours où je fais ça, je fais ça. Après, j'essaie quand même de travailler le sax quand je reviens. Si je donne pas de cours, généralement, je travaille le sax, on va dire, 2-3 heures par jour. Je passe du temps sur Internet à essayer de trouver des gigs. Je me tiens informé de ce qui se passe. Je vais écouter de la musique le soir assez souvent quand même, on va dire 2-3 fois par semaine. Et puis quoi d'autre, bah, j'essaie de faire du sport une fois par jour, si tu peux, je vais nager là depuis quelques mois, j'ai repris. Et j'essaie de faire la cuisine si possible. Donc c'est, mine de rien, ça fait beaucoup de choses.
Ouais, bah.
Entre l'intendance de la vie quotidienne,
c'est
pas toujours possible de tout faire.
Justement, quel est ton plus grand challenge en tant que musicien à New York ?
Arriver à continuer à avancer en faisant vivre mes projets et à garder une vie équilibrée et relativement saine.
Ok. Penses-tu qu'il est toujours essentiel pour un musicien aujourd'hui d'aller vivre à New York pour devenir un musicien de jazz ?
Essentiel, non. Il y en a plein, enfin il y a des exemples de gens qui vont pas à New York, qui sont jamais allés à New York, ou pour qui aller à New York est quelque chose d'anecdotique dans leur parcours musical, mais je dirais que ça aide, de manière générale. Alors, par exemple, j'ai travaillé avec Joseph Dumoulin, qui est un musicien que j'aime beaucoup. Bon, bah, la première fois où il est venu à New York, c'est quand on a enregistré ensemble, il n'était jamais venu avant. Ça ne l'a pas empêché d'être un musicien extrêmement solide, très original, de développer sa voix et à la fois de développer une maîtrise des fondamentaux qui est très forte. Donc il y a des gens comme ça.
Est-ce que justement ne pas être à New York, ça peut être un avantage pour trouver sa voix, parce qu'il y a tellement
c'est ce que j'allais dire, dans le cas de Joseph, c'est peut-être un avantage, mais après je suis pas certain que ce soit le cas pour tout le monde. Et je pense que il y a plus quand même d'avantages que d'inconvénients à venir à New York, au moins pour une période, pour étudier, pour voir un peu ce qui se passe, pour écouter des musiciens, pour faire des sessions, rencontrer des gens. Après, je pense pas forcément que ce soit essentiel. Pour moi, ça l'a été, mais je pense que c'est plus mon parcours personnel.
D'accord, et du coup, dans tout ton parcours, quelle est pour toi l'expérience de jeu qui t'a le plus apporté, transformé ?
C'était à New York. Enfin, il y a eu des expériences très jeunes qui ont été vraiment formatrices, notamment quand j'étais dans l'orchestre du lycée Claude Monet, où je savais pas faire grand chose, j'avais 15 ans, 16 ans. Je me rappelle d'un concert en particulier où on jouait le truc d'Oliver Nelson qui s'appelle Stolen Moments, qui est un blues mineur. Et je me rappelle avoir fait un solo là-dessus et me sentir vraiment porté, me sentir vraiment improvisé, à la fois en contrôle et à la fois il y avait quelque chose qui passait par moi où je n'étais pas complètement en contrôle, mais en même temps j'entendais ce qui se passait et j'étais en contrôle. Du coup, c'est cette espèce de balancement permanent, sauf que c'est pas vraiment un balancement parce que les deux sont là au même moment. Du coup, c'est la première fois où je me rappelle avoir éprouvé ce sentiment précis qui en fait est ce que je recherche dans l'improvisation. Après, des moments marquants musicalement, ouais, la première fois où j'ai joué avec Guillermo Klein, je connaissais sa musique très bien parce que je l'avais écouté beaucoup de fois, j'avais jamais joué avec lui, il m'a appelé pour remplacer dans son groupe. J'ai passé 2 jours à travailler sa musique 10 heures par jour et j'ai fait le concert. Et là encore, j'ai ressenti des sensations assez, assez intenses. Et surtout, c'était la première fois où je me retrouvais à ma place dans un groupe que j'aimais énormément et où ça m'a fait passer un cap. Et je me suis dit, bon, tout d'un coup, en fait, ce que j'essaie de faire, ben, je peux y arriver. Il y a eu ça. Et après, 10 ans plus tard, il y a eu me retrouver au Village Vanguard avec Ben Maunder et Paul Motion dans le trio de Paul Motion. Et ça, ça reste quelque chose de marquant.
Est-ce que ce genre d'expérience, c'est un petit peu la magie de New York, dans le sens où on se retrouve tout d'un coup à être dans une salle mythique et avec des musiciens mythiques? Est-ce que c'est justement ce qui est spécifique à New York? Permet ce genre de...
Oui, parce que je pense que, par exemple, ça, ce sont 2 expériences que je n'aurais pas eues si je n'habitais pas New York. Après, je pense que des expériences musicales de cet ordre, on peut en avoir n'importe où. On peut en avoir avec des gens qui sont parfaitement inconnus, de n'importe quel âge, dans n'importe quel lieu. Mais c'est vrai que, disons, que peut-être le fait de vivre à New York facilite les choses dans la mesure où encore il y a une concentration de musiciens qui est importante, et de grands musiciens qui est importante.
Très bien. Une dernière question. Si tu avais un seul conseil à donner à un musicien, quel serait-il ?
Rester honnête avec soi-même sur les capacités qu'on a, l'aptitude à progresser, les lacunes qu'on a, essayer d'être le plus honnête possible par rapport à ce qu'on attend de la musique et pourquoi on fait de la musique et quelle est la démarche musicale qu'on recherche. Essayer de trouver qui on est. Et d'être le plus honnête possible avec soi-même pour justement pouvoir trouver qui on est.
Ok, super, merci beaucoup Jérôme.
De rien.
À très bientôt.
À bientôt.